MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous, bienvenue
Bonjour. Dans
Bonjour chez vous pour cette journée spéciale.
Bonjour. Yveline,
bonjour
Nadine,
bonjour de MCI. Vous l'avez découvert certainement en introduction de cette émission. Aujourd'hui est le premier jour de la campagne de dons, les 20 000 partenaires. Jour de soir. Amen. Amen. C'est une occasion vraiment de se réjouir.
Absolument.
Parce qu'une campagne de dons signifie qu'on va passer à une nouvelle dimension.
Oui.
On va aller plus loin et on va vous en parler tout à l'heure dans cette émission. On va vous expliquer un peu plus en détail, bien que vous avez eu l'opportunité de découvrir le clip principal de cette campagne de dons, qui est magnifique d'ailleurs. Je suis sûre que vous l'avez apprécié. Mais pour l'instant, on va rentrer quand même dans le vif du sujet de notre émission, parce qu'on a un thème quand même.
On va en parler tout à l'heure, Evelyne.
On a un thème. On parlera de la campagne tout à l'heure. Aujourd'hui, veux-tu marquer ta génération ? C'est le thème qu'on aborde ensemble. On veut vous encourager à être de ces personnes qui laissaient votre empreinte autour de vous, dans votre entourage, dans votre famille, partout où vous allez, vous laissez votre empreinte, une belle empreinte. Et Frank, aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir une rubrique flashback qui est très, très attendue, puisque c'est la suite de... Vas-y, c'est maintenant, là. Parlez, à ce moment-là. Articule.
Flashback.
Allez, dis ce que c'est!
Je suis prêt à marquer ma génération. Nadine, es-tu prête?
Pour l'instant, tu laisses une empreinte négative. Attends, je vais te le dire. Me fais pas le prononcer, j'arrive pas à prononcer.
Ah, c'est pour ça!
Ah oui,
je veux qu'il
y ait un peu de prononce-le!
C'est Kilpatrick. C'est John Kilpatrick.
C'est ça!
Tu viens de nous faire perdre 30 secondes, Frank!
Oui, je le sais.
Bon, en tout cas, je vais faire l'introduction de Frank. Il y a plusieurs mois, il nous avait présenté ce magnifique témoignage du début de la vie de cet homme-là. Et je ne veux pas prononcer son nom parce que je n'y arrive pas.
John Kilpatrick.
Yes, John, de la vie de John, voilà. Et c'était extraordinaire. Vous aviez été très touché dans les commentaires. Et là, on va avoir la suite.
La suite...
Merci, Frank. Okay, alors on va commencer avec la pensée du jour.
Veux-tu marquer ta génération? Moi, je réponds oui, je veux marquer ma génération. Et je crois que vous aussi à la maison, vous répondez à la positive. On va lire ensemble un seul verset dans Actes 20, verset 24. L'histoire d'un homme qui a marqué sa génération, dont on parle encore jusqu'à présent, c'est l'apôtre Paul. Il dit dans Actes 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et Paul a marqué sa génération, évidemment, nous le connaissons tous, l'histoire de l'apôtre Paul. Nous avons lu les épîtres de l'apôtre Paul, nous avons été inspirés par lui, par la révélation qu'il avait de la croix, des Écritures, de l'Évangile. Et Paul a marqué sa génération en faisant des choses très simples, en mettant en place, en fait, des principes qui sont accessibles à vous et à moi. Il a marqué sa génération à travers ces principes-là, et je crois que si nous aussi, on comprend ces principes, on pourra faire de même. Alors, trois éléments qui vont faire de vous, qui vont faire de moi, des gens qui marquent leur génération. La première, il le dit dans ce verset, il ne fait aucun cas de sa vie. Enfin, ne faire aucun cas de sa vie, ça ne veut pas dire ne pas prendre soin de soi, ça ne veut pas dire mépriser sa propre vie, mais ça veut tout simplement dire ne pas considérer sa vie comme étant à soi, mais la considérer comme appartenant à Dieu. Donc, lorsque vous considérez que votre vie, elle appartient à Dieu, que Dieu est le maître de votre vie, à ce moment-là, vous êtes en mesure de vous laisser conduire par lui et vous êtes en mesure de marquer votre génération. La deuxième des choses, c'est d'avoir la perspective de l'éternité. Ça veut dire que je ne vis pas seulement pour le monde d'aujourd'hui, je ne vis pas seulement pour les 90, 100, 120 ans qui me sont réservés de ce côté-ci de l'éternité. Mais je sais qu'il y a quelque chose après. Il y a une perspective éternelle. Je dois faire des choses qui durent. Jésus va dire dans Matthieu 6, au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la mythe et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Donc avoir la perspective de l'éternité va me permettre de faire des choses qui comptent, des choses pour le royaume, va me permettre de faire des choses pas juste pour mon ventre, pas juste pour ma propre vie, mais de dire, Seigneur, quels sont tes plans? Je veux rentrer dans tes plans, je veux être un outil que tu vas pouvoir utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. La troisième des choses que Paul a fait, que nous pourrons faire aussi pour marquer notre génération, c'est celle de marcher dans l'obéissance. Il n'y a pas d'impact pour Dieu sans obéissance. Vous devez marcher dans l'obéissance. Noé a marché dans l'obéissance, il a eu un impact dans sa génération. Abraham l'a fait, et on parle d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Paul l'a fait. Jésus lui-même, notre Seigneur et Sauveur, a marché dans l'obéissance. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a eu un impact incroyable. Alors vous aussi, Dieu a un appel pour vous. Il y a des choses qu'il vous demande de faire. Alors que vous marchez dans cette obéissance, vous aurez réellement un impact dans votre génération.
Amen, merci. C'était une belle exhortation pour démarrer cette magnifique journée.
Amen.
Parce qu'on veut marquer notre génération et la Bible nous exhorte à le faire. On va regarder tout de suite notre verset du jour. Matthieu 5 au verset 16 nous dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Amen.
Alléluia.
C'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Nous devons briller, nous devons être ces lumières. Et en fait, notre lumière, nos bonnes attitudes, nos bonnes actions, notre bonne humeur, notre joie va être une occasion pour les autres de glorifier Dieu. Et c'est une motivation, je trouve, qui est suffisante pour pouvoir se dire, OK, je vais marcher éventuellement sur ma mauvaise humeur, sur mon orgueil, sur peut-être des défis que je peux rencontrer dans la journée, parce que je veux que les autres puissent glorifier Dieu par le témoignage que je laisse autour de moi, par ce qui émane finalement de moi. Mm-hmm. Et on l'a dit en début de cette émission, mm-hmm. on est dans une nouvelle journée, une journée qui commence, qui annonce le début d'une nouvelle campagne de dons.
Qui s'appelle comment, Evelyne?
Qui s'appelle les 20 000 partenaires.
Yes.
Mensuel,
merci.
Important.
Frank. Mensuel parce ouais. que c'est une campagne différente. Les dernières campagnes qu'on avait faites oui. jusqu'à présent, on a eu les 3500 héros, on a eu les 5000 semeurs qui étaient des campagnes ponctuelles. C'est-à-dire que vous donniez pour un moment précis un don une fois ou sur plusieurs fois, hein, c'était, oui. mais pour un projet précis qui était en l'occurrence le bâtiment. Mm-hmm. Le centre MCI est complètement terminé. On tourne aujourd'hui dans le studio B.
Yes.
Donc on a les deux studios qui sont fonctionnels. Cette machine puissante est vraiment en marche, cette moissonneuse-batteuse, ouais. comme il l'a été dit plusieurs fois. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des frais de fonctionnement, forcément, et il y a un énorme projet exceptionnel qui est le
gigantesque,
qui est le projet Ma Bible, dont on vous a déjà parlé lors de la dernière campagne, mmh. et on va vous en dire beaucoup plus dans ces 3 mois qui s'avancent ouais. devant nous, parce que cette campagne va durer 3 mois. Et on a ce merveilleux projet Ma Bible qui est gigantesque. Je n'ai même pas de mots suffisants pour le qualifier, parce que jusqu'à présent, on faisait des projets qui était, il y avait un début et une fin à ce projet-là. Mais Ma Bible, j'ai l'impression qu'il est sans fin, ce projet-là. Mon mari me dit tout le temps, c'est le plus gros projet sur lequel j'ai jamais travaillé. EMCI TV, c'est rien à côté. Bah,
il est énorme, le projet, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va sortir.
Oui, il y a une fin.
Il y a une fin, une sortie.
Voilà, une sortie, c'est voilà. ça.
Parce que, comme les gens l'ont vu, il va y avoir la Bible qui va être commentée en vidéo. Ça, c'est un des features mm-hmm. qui va être dans l'application Ma Bible. Et c'est des milliers de vidéos qui sont à tourner. Donc, c'est gigantesque.
C'est
donc,
ça.
La Bible sort, l'application Ma Bible sort, et elle va être continuellement, je vais le dire comme ça...
Alimentée,
ouais, mmh. c'est par des nouveautés qui vont constamment sortir, que ça va être là, et ça va être une bénédiction.
Exactement. On a plein de choses à vous dire ouais. sur cette campagne, parce qu'elle est grande et elle annonce beaucoup de projets. Et tout au long de ces 3 mois, on va vous en parler dans nos différentes émissions. Aujourd'hui, je veux simplement vous donner le « cue », entre guillemets, que vous compreniez cette campagne de dons. Donc, ce sont des partenaires mensuels, quand on parle de mensuels, donc c'est, qui donnent chaque mois un montant de 35 euros ou plus, selon comment vous l'avez à cœur, selon vos moyens également, pour un soutien mensuel qui nous permet à nous de budgéter, d'anticiper et surtout de mener à bien tous les projets que le Seigneur a mis sur notre cœur. Et on va vous en parler dans les prochaines journées, on va vous parler dans les prochaines semaines, vous en saurez plus. Mais c'est une magnifique campagne et vous pouvez, si vous le souhaitez, dès maintenant, vous allez sur emcitv.com/20000. Alors 20 000, attention, il y a 4 zéros, hein, parce que même moi, je me mélange. 20 000. Et vous pouvez dès maintenant faire partie de cette grande et merveilleuse famille des partenaires, rejoindre les 5600 à peu près partenaires que nous avons actuellement pour atteindre ces 20 000 partenaires mensuels. On vous dit déjà un très très grand merci et merci aux 5600 qui nous soutiennent déjà mensuellement depuis des années maintenant. Vraiment, vous êtes chers à nos cœurs. On vous en dira plus. Comme je l'ai dit, dans les prochaines semaines, les prochaines journées, je ne veux pas empiéter trop de temps parce que je crois que tout comme moi, vous attendez impatiemment la suite de cette rubrique Flashback. Donc Frank, à toi la parole.
Eh oui, on avait parlé de John Kilpatrick. Je le dis, Evelyne, maintenant que l'émission est débutée. Mon micro était génial.
Tu ne regrettes rien.
Et donc, je rappelle très rapidement l'histoire. Vous pouvez aller voir. C'était dans quelle émission, Nadine, que cette première rubrique était?
Ah oui, c'était « Tu peux vivre quelque chose de nouveau ».
Vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, ouais, c'est ça. Voilà.
Trop forte.
Je les connais comme ça. Et donc, je fais un résumé très rapide. À l'âge de 12 ans, John Kilpatrick est touché, il voit le miraculeux de Dieu lors d'une réunion de Oral Roberts sous un grand chapiteau, une dame qui est guérie surnaturellement d'une façon extraordinaire. À 14 ans, il vit un appel qui était très, très fort, très particulière, que j'ai décrit dans cette première émission qu'on avait fait sur sa vie. Et pour rappeler, John Kilpatrick est l'homme à travers qui Dieu a passé pour ce grand réveil de 1995 qui a touché la Floride, mais le monde entier par la suite, en 1995. Et donc là, je retourne encore une fois dans son adolescence, à l'âge de 14 ans, parce qu'à 12 ans, il a vu la puissance de Dieu, 14 ans son appel, et alors qu'il a 14 ans, il veut se rapprocher de Dieu. Et son pasteur d'église locale voit qu'il y a un appel clair sur sa vie, comprend l'appel que Dieu a placé sur sa vie qui est là. Et le pasteur va voir la mère de John Kilpatrick. Et le père de John avait quitté la famille. Il vient d'une famille où, voilà, le papa les a laissés alors qu'il avait justement le début d'adolescence. Et le pasteur dit à la maman, qui, elle, travaillait de soir à cette époque-là, il dit, je veux prendre John et je veux qu'il prie avec moi les soirs. Est-ce que tu acceptes que je l'amène prier avec moi à tous les soirs de la semaine, de 11h30 le soir jusqu'à 1h30, 2h du matin?
Il a 14 ans, là.
Il a 14 ans. Sa maman travaille de soir, donc elle part travailler à 16 heures. Elle revient vers les minuit, 1 heure du matin. Et le pasteur dit, moi, je veux le prendre avec moi tous les soirs, 11h30. Je veux lui apprendre à prier. Et donc, John, lui, il entend ça, mais en dedans de lui, il ne va pas le dire. Hein, mais il se dit, moi, je ne suis pas appelé à prier, je suis appelé à prêcher. Et pourquoi est-ce que je dois apprendre à prêcher comme ça? Et en fait, prier. Le pasteur, justement, lui dit, si tu veux avoir, entre guillemets, du succès dans le ministère, tu dois avoir, entre guillemets, comme ça, je le dis comme ça, du succès dans la prière. Mm-hmm. Parce que c'est là que ça va commencer. Et donc, le pasteur le prend, et puis avec 2-3 autres garçons, il y avait John et 2-3 autres qui étaient là, et le pasteur les amène à l'église, et puis il enlève sa veste, il ôte sa cravate, il roule ses manches, et le pasteur s'allongeait sur le sol pour commencer avec les gars. Et là, il dit, il s'appuyait comme ça. Et là, ils étaient à terre, tous. Et là, il commence à leur raconter des histoires de réveil. Mmh. Des histoires que le pasteur avait vécues dans la Grande Dépression des années 1930 aux États-Unis. Où est-ce qu'il... Il dit, je me rappelle, je prenais le train, je débarquais du train, je devais marcher sur le chemin de fer, me rendre à tel endroit, traverser des bois pour arriver à des endroits où est-ce qu'il y avait des réunions de réveil dans les campagnes, etc. Les gens étaient sauvés, guéris, il y avait... Et là, lui, il entendait ces histoires et en dedans de lui, il dit, mais ça commençait à brûler. J'entendais les histoires de réveil et ça brûlait en moi. Et le pasteur racontait toutes ces choses et il a dit, John a dit au Seigneur, secrètement, il dit, Seigneur, est-ce que je vais un jour pouvoir raconter des histoires comme ça moi aussi? Parce qu'il y avait une soif qui commençait vraiment à grandir à l'intérieur de lui. Donc, il apprend à prier et le pasteur leur dit, si tu viens pour prier, N'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Première des choses qu'il leur dit. Dis les gars, et là, c'était du concret, là. Je vais vous apprendre à prier. On n'est pas ici pour impressionner qui que ce soit. Tu ne pries pas pour les autres. Tu viens ici, c'est-à-dire pour impressionner les autres. Tu ne viens pas ici pour te faire entendre. Tu parles au Seigneur et c'est sérieux. Comprenez, les gars. Et là, il dit, ils se sont fait enseigner les différentes sortes de prières. Prière d'intercession, prière de pétition, prière de foi. Ils commencent à leur enseigner les bases de la prière. Et ils commencent justement à persévérer aussi dans la prière. Le pasteur le disait, les gars, vous devez apprendre à persévérer. Et là, le pasteur, qui lui est rendu d'un certain âge, encourage des jeunes de 14, 15, 16 ans. Et là, les gars, ils sont là tous les soirs et ils prient, ils persévèrent, Et là, il dit, je sens quelque chose de particulier. Ma relation avec le Seigneur commence à s'approfondir. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. En fait, il vit ses premières réunions de réveil dans cette année qui a suivi. Le pasteur reçoit un évangéliste invité. Et les réunions sont très fortes et très bien. L'évangéliste qui était là de passage, vraiment la puissance de Dieu commence à se manifester. Et ça dure un certain temps, mais à un moment donné, le pasteur de John, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il dit à John, il dit aux autres, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il rencontre l'évangéliste parce qu'il faisait des réunions tous les soirs. Il dit, j'arrête les réunions de réveil, c'est fini. Il y a quelque chose, je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais j'arrête les réunions. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ça le démarrait bien. Mais au fur et à mesure qu'il y avait du fruit, etc., etc., l'évangéliste a commencé à amener une division dans l'église locale où est-ce qu'il faisait les réunions. Il s'est retrouvé qu'à prendre une grande partie des brebis et démarrer quelque chose dans la ville où est-ce qu'il était. Donc, il voit le bon côté des réunions de réveil, mais il voit aussi par la suite à quel point parfois l'homme peut faire des choses qui sont incompréhensibles. Et donc, l'Église va pas bien, les répercussions de la division et de l'attaque du diable sont bien présentes. Et alors que les choses comme vont de pire en pire, le pasteur de John rassemble les gars un soir après une réunion du dimanche soir et dit « Les gars, venez avec moi, je veux qu'on puisse aller prendre un café, je veux vous amener au restaurant. » Il amène les garçons au restaurant et là, il leur dit « Je me suis fait offrir un poste dans une autre ville et je vais quitter cette église locale où est-ce que je suis. » Le mentor de John et des autres gars vit la division, vit le split dans l'église. Là, il se fait offrir quelque chose d'autre. Il leur annonce tout ça. John est là, ça fait à peu près un an qu'il est avec lui. Et là, dans lui, il dit, j'ai envie de pleurer, mais j'ai pas envie qu'il me voit pleurer, mais j'ai tellement envie de pleurer. Et là, il se dit, mais c'est fini pour moi. Je veux plus rien savoir de ça. J'avais un père naturel, il m'a abandonné. Là, j'avais lui dans ma vie, qui me faisait un mentorat dans ma vie. Et là, lui aussi, il m'abandonne. Dieu, là, tout ça défile dans sa tête. Tu comprends qu'est-ce que... Là, le pasteur, après leur avoir annoncé, dit, venez, on va aller à l'église prier, comme les autres soirs quand même, les gars. Je vous annonce, mais on va retourner à l'église. Et là, ils reviennent à l'église. Ils sont un petit groupe. L'atmosphère était lourde depuis des semaines. C'était chargé, mais négativement. Depuis qu'il y avait eu la division, les gars, ils se réunissaient, c'était plus pareil. Il y avait de quoi qui se passait. Et là, Dieu intervient. Ils sont rassemblés à cette réunion de prière. Et alors que ça fait peut-être 15 minutes qu'ils sont là rassemblés prier, il y a un des hommes qui était venu avec eux ce soir-là en particulier. Il dit, « Bon, les gars, moi, je vais rentrer à la maison. » Il ne sentait pas. Il va s'asseoir sur le devant du stage de l'église. Il s'assoit pour remettre ses souliers. Alors, John, il dit, j'ai tout vu ça se passer. En l'espace de quelques instants, l'homme s'est penché pour prendre son soulier. Il s'est redressé. Quelque chose dans l'air. Le pasteur, qui venait d'annoncer qu'il allait partir, s'en va s'asseoir sur le bout du stage. John était dans l'église à quelque part. Il dit, là, il y avait quelque chose qui se passait. C'était trop particulier. J'allais m'asseoir à côté du pasteur. En fait, il voulait être comme rassuré. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il sentait un shift. Dans l'église, il y avait deux géantes portes faites comme d'acier qui donnaient sur le sanctuaire. Les deux portes étaient barrées par cinq différents cadenas. Des tiges dans le sol, tiges dans le plafond, à clé, une tige. En un instant, ils étaient tous en avant, le petit comité qu'ils étaient. Les portes font fouf, simultanément. Ils étaient barrés à clé. Les deux portes ouvrent, tapent les murs. Et alors qu'ils sont là, tous assis, ils regardent, John y voit. Derrière lui passe un premier ange. géant, sa tête touche le plafond. Tout le monde est figé. Un deuxième ange entre, s'en va vers le fond de l'église. Il dit, il marche comme un soldat. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas d'ailes, mais ils avaient des habits de guerriers. Ils ne disaient aucun mot, mais ils n'avaient pas d'armes avec eux visibles. Il marche comme un soldat. Fouf, va au fond de la salle, tourne. Un à droite, un à gauche. Il regarde de chaque côté. Personne ne dit un mot. Tout le monde était conscient de ce qui se passait. Ça dure plusieurs minutes. Rien ne se passe. Alors qu'ils sont là, en fait, John était dans la présence de Dieu comme ça. Les anges ont demeuré pendant plusieurs minutes et sont ressortis. Alors qu'ils sont ressortis, ils n'ont pas dit un mot. L'atmosphère a entièrement changé dans la pièce. John et les autres se lèvent et alors qu'ils étaient en train de sortir, Dieu parle au pasteur. Il lui dit, tu vas rester ici avec ces jeunes hommes parce que je vais toucher bien plus de vie à travers leur vie que tu vas pouvoir toucher de personne, toi, à travers la tienne. Je te demande de déverser tout ce que tu as en eux et de ne pas partir à cette offre que tu as reçue. Le pasteur était là, entend la voix du Seigneur. Les anges quittent, l'atmosphère est chargée. Ils se lèvent, disent pas un mot. John voit, c'est la hauteur, comme j'ai dit, jusqu'au plafond, les anges sont massifs. Alors qu'ils s'en vont pour sortir de l'église, c'était une atmosphère qui était... Ça l'avait complètement... Il arrive vers le fond, vers l'entrée de l'église, pouf, tombe par terre. La gloire de Dieu était là. John s'effondre, il dit, c'est la première fois que j'ai touché à la... J'ai vécu la gloire de Dieu de cette façon-là. Après ce jour, et c'est ça qui est extraordinaire, Dieu visite. Alors que le diable a voulu salir, démolir, briser une église comme ça en un instant, c'est comme il a dit, l'atmosphère spirituelle a été entièrement nettoyée par leur présence. Il s'est effondré, ils sont restés là encore longtemps, ils sont relevés. Le mercredi soir, l'église était remplie, pleine à craquer parce que les gens avaient entendu parler de ce qui s'était passé. L'église était de nouveau, c'était le feu, c'était la vie qui était revenue comme ça. Et ça a démarré une nouvelle saison dans sa vie, en fait, où est-ce qu'il a vécu la puissance de Dieu. Par la suite, les choses ont évolué. J'en parlerai une autre fois, parce qu'il y a tellement d'histoires à être racontées par rapport à sa vie. Mais ça l'a été... le début de quelque chose extraordinairement fort. Et quelques années plus tard, il est lui-même devenu pasteur d'une église locale. Ça a été le changement complet, ça a été énorme. Donc voilà pour cette deuxième partie de sa vie. Evelyne, je n'ai pas le temps d'en dire plus.
Chaque partie de sa vie est puissamment puissante. Wow! Eh bien, voilà, moi je dois faire une conclusion maintenant après ça. Je vais juste vous dire qu'on va se retrouver demain et que demain on aura le pasteur Marcel Coimenan qui sera avec nous. Demain, le thème qu'on abordera, c'est quelles sont les clés de l'autorité en Jésus-Christ. Et le pasteur Marcel va faire une rubrique conseil du coach et aux réponses d'experts. Je ne sais plus, peu importe. On se retrouve demain, ça va être puissant. Merci beaucoup Frank, merci Nadine et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.